avant d'aborder l'étude de détail de la Gomara, que vous suivrez pour ceux qui ont des textes sous les yeux, nous aurons donc à avoir une série de préfaces au sujet, et comme pour la série des cours de cette semaine, une fois l'étude suffisamment avancée, alors nous essaierons de réfléchir sur la motivation de cette liturgie, qui consiste, je vous le rappelle, mais j'aurai à le rappeler souvent, de mentionner le souvenir de la sortie d'Égypte pendant la liturgie du soir, pendant la liturgie de la nuit. Et nous aurons donc à essayer de dégager les implications historiques du rapport entre la commémoration liturgique et ce que représente l'événement que l'on veut commémorer pour la signification de l'histoire elle-même, de l'histoire d'Israël elle-même. Voici, j'aborde tout de suite le texte de la Mishnah. Voici quelle est la proposition qui nous est donnée dès le début de la Mishnah. Alors vous avez ce texte à la fin du premier chapitre, c'est la page Yud Bet Bet, 12B, au bas de la page. Et la Mishnah commence par une proposition qui est enseignée d'autorité, Maskirin Yetziat Mitzrayim Balelot. Et vous retrouverez là très rapidement un thème très important de la Gada de Mishnah. Que signifie Maskirin Yetziat Mitzrayim Balelot? Ça signifie littéralement, on mentionne, on rappelle le fait de la sortie d'Égypte, Balelot, les nuits. C'est-à-dire même pendant la liturgie des nuits. Alors, première introduction, pourquoi le problème se pose? C'est-à-dire, tout se passe comme si il n'y a pas de controverse quant au fait d'avoir à mentionner le souvenir de la sortie d'Égypte dans la liturgie du jour. Et effectivement, il s'agit là d'obéir à une mitzvah, à un commandement de la Torah. C'est donc que l'événement de la sortie d'Égypte a une importance telle que la mention doit en être faite chaque jour. Mais comme vous le savez, le jour dans le calendrier de commémoration, dans le calendrier juif, le jour a donc deux parties, deux moments, la nuit qui précède et ensuite la journée. Alors, le verset qui institue cette liturgie dit, c'est un verset qui va être repris dans la controverse tout à l'heure, le Maran Tizkor Etion Setecha Meret Mitzrayim Kol Yemei Chayecha. Je prends la première partie du verset. Il est important de mentionner le jour de la sortie d'Égypte, l'événement qui a eu lieu le jour de la sortie d'Égypte, donc au temps historique où l'événement s'est passé. Il était important de se souvenir de cet événement Kol Yemei Chayecha tous les jours de notre vie. Et par conséquent, dans le temps même du calendrier, la place normale, la place légitime de la mention de cet événement est dans la liturgie de la journée, semble-t-il. Nous avons en particulier, la place de cette liturgie sera dans la lecture du Kriyat Shema. Et comme vous le savez, la lecture du Kriyat Shema se fait à deux moments de la journée, le soir et le matin. Encore une fois, il est important de se rendre compte de l'ordre, du rythme, du temps dans la journée de commémoration, au point de vue liturgique et au point de vue du calendrier. Le temps, d'après la conception de la Torah, le temps est orienté. Il y a d'abord le temps de la nuit et ensuite le temps du jour. Le temps de la journée, pardon. Et c'est ensemble, la nuit et la journée, qui font le jour. Et comme vous le savez, chaque jour, vous voyez comment les termes sont assez impropres en français, mais essayez malgré tout de traduire mentalement. Le jour pour le calendrier juif est la durée du temps dans le jour est orientée, c'est d'abord le temps de la nuit, le temps de l'obscurité, et après seulement le temps de la clarté. Il y a là toute une conception de l'histoire qui est déjà enfermée dans cette première prescription de l'ordre du rythme de la durée dans la journée. C'est une conception optimiste de l'histoire. Le monde passe d'abord par l'obscurité et ensuite il aboutit à la lumière. Et donc le jour commence le soir et se termine le lendemain soir. Et donc tout se passe comme si, pour la Mishnah, cette proposition qui consiste à mentionner la sortie d'Égypte dans la liturgie du matin ne fait pas problème. Parce que la commémoration est homogène à l'événement. Dans la journée, nous nous situons après la nuit. L'événement de la sortie d'Égypte, du point de vue historique, a eu lieu pendant la nuit du 14 Nissan. Pendant la nuit, l'événement sorti d'Égypte s'est fait. Par conséquent, dans le temps liturgique au matin, nous sommes dans un monde liturgique mat'im, c'est-à-dire homogène à l'événement que nous voulons commémorer. c'est un événement de délivrance. Au matin, nous nous trouvons après la nuit, si j'ose dire délivrés de la nuit. Par conséquent, il est normal, dans la liturgie du matin, de rappeler l'événement de délivrance qui a mené au matin. Et je crois qu'il est indispensable d'entendre à la fois les différents registres de signification de ces termes, tant du point de vue de l'événement positif que de la signification qu'il représente. Je ne veux pas dire du sens symbolique qu'il représente, mais plutôt de sa signification. Lorsque nous sommes dans le temps de la clarté, lorsque nous sommes dans l'expérience de la clarté, il est normal, c'est spirituellement compatible, il est normal de rappeler l'événement qui a fait passer de l'obscurité à la clarté. La question se pose dans le temps de commémoration du soir. Est-ce qu'il est normal de rappeler la sortie d'Égypte au temps liturgique du soir, dans le rythme de la journée, et il semble que cela fasse problème. Nous allons entrer dans une discussion à ce sujet, et cependant, d'autorité, la Mishnah a décidé, Maskirin, Yetziat Mitzrayim, Valeo. On doit mentionner la sortie d'Égypte, et je vais ajouter un mot aussi pendant les nuits, et pas seulement pendant les jours. Et il s'agit très précisément, d'abord, dans cette mention de la sortie d'Égypte, de la lecture de la troisième paracha du Kriyat Shema. Vous savez que le texte du Kriyat Shema a trois paragraphes, a trois chapitres, et la troisième paracha du Kriyat Shema se termine par un verset qui rappelle la sortie d'Égypte et qui nous fait déboucher sur la bracha qui suit, et qui est le soir donc Emet Ve'emuna, et dont tout la bracha de Emet Ve'emuna, qui suit le Kriyat Shema, et dont tout le contenu consiste à se référer à l'expérience historique du fait qu'il y a eu délivrance en Égypte. C'est, en tout cas, pour la liturgie du soir et celle du matin, la mitzvah du Kriyat Shema précède directement celle de la Tfila. Voilà donc notre problème. La Mishnah a décidé « Maskirin Yetziat Mitzrayim Balelot » et ensuite, dans la Mishnah même, va suivre l'énoncé de la controverse à ce sujet. Je crois que nous pouvons aborder directement cette controverse et ça nous mènera à différentes introductions, à un certain nombre d'introductions différentes encore avant d'aborder la lecture de la Gemara elle-même. Alors, immédiatement après la Recha, la proposition du début de la Mishnah, on mentionne la sortie d'Égypte, sous-entendu aussi, mais aussi dans la liturgie de la nuit. Et voici ce que la Mishnah enseigne. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Hare ani keben 70 shana, velo zachiti sheteamer yetziat Mitzrayim Babelot. Rabbi Elazar ben Azaria, qui, comme vous le savez, à la suite de péripéties, enfin d'événements de l'histoire même du Sanhedrin, avait été nommé à la tête, comme chef donc du Sanhedrin, à la tête du Sanhedrin, Rabbi Elazar ben Azaria, ce jour-là, a dit Hare ani keben 70 shana, me voici comme si j'étais âgé de 70 ans. Velozachiti, j'étais amer, yetziat Mitzrayim balelot, et je n'ai pas eu ce mérite de réussir à pouvoir établir, à pouvoir fonder, à pouvoir prouver, j'étais amer, yetziat Mitzrayim balelot, le fait que la sortie d'Égypte doit être dite pendant les nuits. Je voudrais tout de suite mettre en évidence le changement de terme qui est employé dans la proposition de la Mishnah et dans la formule qu'emploie lui Rabbi Elazar ben Azaria. Et ensuite, nous reviendrons quand même un peu en arrière pour nous demander ce que fait Rabbi Elazar ben Azaria dans ce problème et pourquoi il nous dit cette chose apparemment difficile à comprendre, qu'il se trouve comme s'il avait 70 ans. Quel rapport y a-t-il avec ce problème? Oui, la Mishnah a dit « Maskirin yetziat Mitzrayim balelot », c'est-à-dire on mentionne la sortie d'Égypte aussi pendant la liturgie de la nuit. Mais Rabbi Elazar ben Azaria a dit qu'il avait été difficile, même pour lui, comme s'il était âgé de 70 ans, qu'il avait été difficile pour lui de démontrer que l'on devait dire la sortie d'Égypte. J'étais amer. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous entendez bien la différence de terme, hein? Alors je pense qu'on peut très directement entrer dans la précision même de la halakha de ce problème. C'est que dans tous les cas, une mitzvah n'a à se faire qu'une fois, elle n'a à être réalisée qu'une fois. S'il y a chova, c'est-à-dire s'il y a obligation de mentionner la sortie d'Égypte chaque jour, à partir du moment où on l'a mentionné une fois, l'obligation a été satisfaite. Par conséquent, je pense, c'est une des explications possibles, je pense que dans tous les cas, la Mishnah parle de cette mitzvah qui consiste à mentionner, escalader l'événement, alors que finalement, si dans la liturgie de la journée, le matin, cette mention a été déjà faite, on a déjà réalisé l'obligation, et nous ne savons pas encore pourquoi on tient à rappeler aussi l'événement de la sortie d'Égypte la nuit, mais il suffirait de le dire, d'en parler, et non plus de le mentionner avec l'intention d'être quitte de l'obligation qui consiste à devoir mentionner, puisque ça a été déjà fait une fois dans la journée. C'est une des explications possibles. Je vous dirai tout de suite pourquoi elle n'est pas entièrement satisfaisante. Et c'est tout simplement parce que la Mishnah a dit « maskirin balelot ». Parce que dans tous les cas, si vous voulez, la couchée arrête, la difficulté reste. Est-ce que vous comprenez bien le problème? C'est-à-dire, tout se passe comme si il suffit de réaliser cette mitzvah une fois, c'est-à-dire chaque jour, donc dans l'ordre liturgique de l'importance d'une idée qui a à être répétée chaque jour, de la même manière que chaque jour on affirme l'unité de Dieu dans le Kriyat Shema lui-même, et il est nécessaire de le répéter chaque jour, parce que chaque jour porte en lui-même la raison pour laquelle il faut affirmer cette affirmation. Chaque jour porte avec lui le risque de l'expérience de la dualité de souveraineté dans le monde, et par conséquent, chaque jour, il est nécessaire que cette liturgie lutte contre le rochem, contre l'éventuelle expérience d'une dualité de souveraineté dans le monde. C'est un autre problème, enfin, j'y fais allusion simplement comme illustration de ce fait, que nous savons d'autre part qu'il est normal que chaque formulation ou affirmation de la liturgie soit à répéter chaque jour, parce que dans chaque journée, l'ensemble des mêmes problèmes qui se posent à la conscience de l'homme, en particulier à la conscience dans sa vie spirituelle, ont à être résolus. C'est une chose de savoir que Dieu est un, et c'est une autre chose, au niveau de la liturgie, que d'avoir à lutter par cette affirmation Bekavana, avec l'intention de l'affirmer, à lutter contre ce risque de ce que l'expérience de la vie porte avec elle, ce risque de, plus que de l'idée ou du savoir, de la pensée que, mais ce risque d'expérimenter que dans le monde sont en travail deux souverainetés et pas une seule. Et puisque j'ai cité ce thème même comme illustration, ça vaut la peine d'y réfléchir. L'expérience directe, la relation avec le monde, tant du point de vue de notre représentation mentale que du point de vue de l'expérience des valeurs, nous renvoie à un dualisme. Si vous voulez, la religion naturelle serait le dualisme. Parce que tout dans la nature semble être disposé de telle sorte de nous convaincre qu'il n'y a pas un Dieu, mais au minimum deux. Au niveau des formulations de la liturgie pure et simple, le jour, c'est la nuit et le jour. La morale, c'est le mal et le bien. Et en toute valeur, il y a toujours l'un et l'autre, ou l'une et l'autre. Et par conséquent, l'expérience naturelle de l'existence semble avoir mené les hommes au dualisme. C'est ce qu'on appelle en hébreu « shtereshuyot », c'est-à-dire l'expérience d'un monde qui serait soumis à deux souverainetés. Et c'est chaque jour, c'est à la limite chaque moment du temps qui porte avec lui cette expérience, et par conséquent il est nécessaire que la liturgie soit une liturgie de répétition. C'est-à-dire qu'à chaque jour, la réalisation de l'expérience spirituelle que représente l'affirmation de l'unité de Dieu doit être recommencée. Parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une religion philosophique, il ne s'agit pas du tout d'une sagesse au niveau du savoir, il s'agit d'une sagesse qui se réalise au niveau de l'expérience spirituelle. Or, au niveau de l'expérience spirituelle, chaque temps de vie porte avec lui l'ensemble des problèmes. Non, ça, c'est le problème de la kavana de la lecture, qui n'est pas uniquement la kavana de l'étude, de la connaissance ou du savoir, mais un véritable acte de réalisation spirituelle de ce que, d'autre part, on connaît au niveau de la sagesse et au niveau du savoir. Bien, de la même manière que nous le voyons pour les rites fondamentaux, comme par exemple l'affirmation de l'unité de Dieu dans le Kriyat Shema, c'est ainsi aussi pour le rite du Zecher. L'importance de la sortie d'Égypte est à réaliser de nouveau chaque jour. Mais il suffit que cela soit réalisé une fois pour que, apparemment, ou pour que, semble-t-il, la chova, l'obligation, soit satisfaite elle-même. Donc il aurait suffi de faire cette actualisation par le souvenir, cette mémorisation, plus exactement, une fois. Et donc la Mishnah a des raisons de nous demander de le faire aussi la nuit, mais il aurait suffi, et là c'est la formulation de Rav Elazar ben Azaria, de le dire, de le mentionner. Voilà donc l'explication que je vous propose, mais comme je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas suffisante, parce que tout simplement, la Mishnah a dit « maskirin yetziat Mitzrayim balelot » et non pas « omrin » ou enfin, la racine, le terme qu'a employé Rabbi Elazar ben Azaria, c'est-à-dire simplement en parler. D'autre part, pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria nous dit, voici, je me trouve comme si j'étais âgé de 70 ans, et velo zachiti, et je n'ai pas pu avoir ce mérite, je n'ai pas pu avoir ce privilège de pouvoir donner le fondement de ce qui se cherche là, le fait que l'on doit parler de la sortie d'Égypte, même dans la liturgie de la nuit, c'est-à-dire pas seulement dans la liturgie du matin, dans le temps liturgique du matin. Eh bien, on voit dans la Masechet Brachot ailleurs, on voit qu'il y a eu tout un ensemble de discussions dans le Sanhedrin, au temps où c'était Rabban Gamliel qui était le chef du Sanhedrin, tout un ensemble de discussions sur la liturgie de la nuit. Et en particulier, un problème très grave qui a divisé les Chachamim, qui n'est pas notre problème de ce passage que nous étudions ce soir, mais c'est par ce problème que je vais vous citer qu'a commencé toute une très grande controverse dans le Sanhedrin et qui a abouti au fait de demander à Rabban Gamliel de ne plus être le chef du Sanhedrin pour qu'on puisse prendre des décisions au sujet de tous ces problèmes qui tournaient autour de la liturgie du soir. Et en particulier, la question la plus grave qui était agitée, c'était même de savoir si, d'une façon générale et dans le principe même, la prière du soir était obligatoire ou simplement facultative. Tfilat harbit, reshut ou chova. C'est-à-dire, on s'est posé à cette époque, dans l'académie, de l'étude d'une question qui finalement a été tranchée, puisque, comme vous le savez, il y a trois prières dans la journée, et que les trois sont considérées comme obligatoires, celle du matin, celle de l'après-midi, et la prière du soir, qui est la prière de harbit. Et cependant, voilà qu'on apprend dans la Gemara qu'il y a eu toute une controverse à ce sujet. Et d'ailleurs, cette controverse est déclenchée par la question d'un élève de la yeshiva, du Sanhedrin à l'époque, et cet élève n'était pas n'importe qui, puisque c'était Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, alors qu'il était encore jeune, et qui a déclenché toute cette discussion qui a abouti à une controverse entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, et au sujet de cette question, est-ce que la tfila de la nuit est une obligation ou simplement c'est reshut, c'est-à-dire si on l'a fait, eh bien on a un mérite de faire une bonne action de plus, hein, mais qu'il n'y a pas là obligation à satisfaire de façon sine qua non. Et finalement, la halakha a tranché que tfilat harbit est chova. Mais il faut d'abord, je crois, essayer de comprendre quelle était la signification de ce problème, parce que c'était le thème général sur lequel vient se greffer cette question, qui par rapport au thème général pouvait même apparaître comme une question de détail. Alors c'est une introduction que nous devons maintenant essayer de comprendre. Mais d'autre part, de façon plus précise, dans le Kriyat Shema du soir, il y avait aussi une controverse de savoir si le soir, la troisième paracha du Kriyat Shema devait être dite ou pas. Et ceci, indépendamment de la question de Tfilat Harbit Reshut Chova, ou indépendamment de Maskirim Nitzel Misraim Balelot ou pas, dans le sens que nous aurons ici à étudier. Trois pages plus loin dans la Gemara, on s'aperçoit que les communautés juives de Babel avaient l'habitude de dire la troisième paracha du Kriyat Shema le soir, et que les communautés juives de Palestine de l'époque, enfin, comme on dit dans la Gemara, Bema Arba, vous savez, là, pour désigner les académies du Talmud de Jérusalem, on disait Bema Arba, c'est-à-dire en Occident, parce qu'on se situait à Babel, Babel qui était donc l'Orient par rapport à la Palestine, qui était l'Occident. Et nous sommes là dans le Talmud de Babylone. Et dans le Talmud de Babylone, il y a cet enseignement que on sait que en Israël, on ne disait pas la troisième paracha du Kriyat Shema le soir, alors que dans les communautés de Babel, on disait cette troisième paracha du Kriyat Shema. Je voudrais aller tout de suite à la signification de cette indication-là concernant, cette fois, notre formule de la Mishnah, Maskiri, Nitziat, Mitzrayim, Balelot, en tant que cette mention de la sortie d'Égypte est désignée déjà par Rashi et par le commentaire autorisé, est désignée comme étant précisément la lecture de la troisième paracha du Kriyat Shema. L'objectif, c'est de rappeler la sortie d'Égypte, mais il s'agit donc de lire le verset qui termine la troisième paracha du Kriyat Shema le soir. Et voilà dans quel contexte cela, la controverse apparaît. Dans les communautés de Babel, donc de l'exil, on disait la troisième paracha du Kriyat Shema, Tandis que dans les côtés, dans les communautés d'Israël, de Palestine, à Jérusalem, si vous voulez, on ne la disait pas. Et on ne lisait que le premier verset d'Aver el Bene Israël, Vamartalehem, Ani Hashem Elokim. Quelle est la signification de cette controverse, de cette différence, qui est une différence très importante? C'est pas du tout que dans les communautés d'Israël, on était plus libéral, on lisait moins de textes dans la prière, et que dans les communautés de Babel, on était plus orthodoxe, on en lisait plus. J'ai entendu une fois une explication de ce genre, c'est pas du tout cela. C'est le fait que l'intention générale de ce rite, de la lecture du Kriyat Shema, est d'affirmer, d'une part, Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire la souveraineté de Dieu sur sa propre conscience, et ensuite Ol Mitzvot, la souveraineté des commandements de la loi. Le Ol Malchut Shamayim, l'affirmation de la souveraineté de Dieu, c'est l'objet de la kavana de la première paracha du Kriyat Shema. Et ensuite, nous avons deux autres parashiot. La seconde, donc celle qui commence par Ve'ayayim Shamoah Tishmeu, c'est le Ol Mitzvot qui doivent être réalisés pendant le jour, surtout pendant le jour, alors que la troisième paracha, c'est les Mitzvot qui doivent être réalisés aussi pendant la nuit. Et nous avons cette indication d'ailleurs dans la Mishnah qui suit, et qui est la première Mishnah du deuxième chapitre, c'est l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Korcha. Je vous répète, j'ai fait une erreur tout à l'heure. La première paracha, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim. La seconde paracha, c'est les mitzvot qui doivent être réalisés et le jour et la nuit. Et la troisième paracha, les mitzvot qui doivent être réalisés que le jour. Vayomer et Nonoreg et la Vayom Bilbal. Et le commentaire précise qu'effectivement, la troisième paracha, qui implique aussi la mitzvah des tzitzit, porte l'expression Uri te moto, vous verrez les tzitzit, et par conséquent, ce n'est pas le temps de la nuit de réaliser le geste liturgique qui consiste à voir. Et je voudrais malgré tout aller très vite à une signification plus générale, c'est ceci, c'est que les communautés qui habitaient en Israël ne se considéraient pas comme étant en exil. Et par conséquent, une liturgie qui concerne le temps de la nuit ne les concernait pas. Tandis que dans les communautés qu'il y avait à Babel, et où on se considérait comme en exil, eh bien, la liturgie qui se réfère aussi au temps de la nuit les concernait. Et en effet, c'est un grand thème du Midrash que le temps de la nuit est comparé au temps de l'exil, ou inversement, le temps de l'exil est comparé au temps de la nuit, alors que le temps de la journée, le temps de la clarté, est comparé au temps de la délivrance. Vous voyez comment nous avons un peu bouclé la boucle du raisonnement. Et nous sommes revenus, nous sommes renvoyés au problème précédent. Il est normal que pendant le temps de la clarté soit réalisée une liturgie de la délivrance, une commémoration donc de l'événement de délivrance. Mais si de nouveau nous sommes entrés dans la nuit, est-ce qu'il y a un sens liturgique à commémorer pendant la nuit une expérience qui est celle de la sortie de la nuit, c'est-à-dire de une expérience d'un moment de délivrance? Et cependant, la Mishnah enseigne d'autorité qu'il faut quand même mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit. Soit, avant même d'aborder la Gemara, je crois qu'on pourrait donner cela comme explication. C'est que la sortie d'Égypte est considérée comme un événement irréversible. On ne revient pas en arrière. Israël s'est constitué comme nation, et cette nation d'Israël, au temps de Moïse, est sortie de l'exil, et cette constitution du passage de la servitude à la liberté, à l'indépendance, cette mise au monde, littéralement, suivant la comparaison qu'on donne le Midrash, tout se passe comme si le peuple d'Israël en tant que nation a été littéralement mis au monde, comme une mère met au monde un enfant, au moment de la sortie d'Égypte, et avec toutes les péripéties de la difficulté de l'accouchement, si j'ose dire. La mère, la matrice, c'était l'Égypte. Ouais, il s'est dévoilé qu'il ne s'agissait pas exactement d'une mère, mais d'une marâtre. Enfin, quoi qu'il en soit, l'événement en lui-même est là, et c'est un événement irréversible. Israël est né, a accédé à l'existence en tant que nation, et c'est irréversible. Oui, mais la commémoration de la sortie d'Égypte commémore le moment de délivrance. Or, voilà qu'entre-temps, on est retombé dans l'exil. Et entre-temps et de nouveau, le temple a été détruit, et Israël est de nouveau en exil. Est-ce que cela a un sens, à la limite, de commémorer la sortie d'Égypte alors que, historiquement, on est retombé dans la situation antérieure, au moment de la délivrance lui-même. Vous voyez pourquoi le problème se pose. C'est-à-dire, pour aller encore plus loin, est-ce que la destruction du temple, est-ce que le retour en exil n'aurait pas effacé l'effectivité même de l'événement de la sortie d'Égypte? Et alors c'est d'autorité que la Torah Sheba Alpé a enseigné que, quoi qu'il en soit, on doit quand même mentionner la sortie d'Égypte, même revenu dans le moment de la nuit ou dans la situation de la nuit. J'ajouterai, enfin, c'est une hyperbole, mais j'ajouterai qu'on aurait pu penser qu'il n'y avait même plus à faire la fête de Pessah, enfin à faire le Seder, en tout cas à commémorer la sortie d'Égypte par le Seder, une fois retombé dans l'exil, mais là encore, la décision est prise. Et allons encore plus loin. D'une façon générale, nous savons que les Hachamim de la Gemara se sont posés très sérieusement la question, déjà on est au temps de la Mishnah, à partir du moment de la destruction du Temple et de la perte de l'identité nationale d'Israël, si cela continuait à avoir un sens de pratiquer les mitzvot, quelles qu'elles soient. Vous voyez jusqu'où va la question. La décision, vous la connaissez, il faut continuer à pratiquer les mitzvot, mais exactement comme elles ont été fixées dans tous les modèles anciens, ceux du Moyen-Âge y compris. Mais le véritable problème est celui de la finalité de la pratique de la mitzvah dans l'exil et dans la diaspora. C'est-à-dire qu'il va s'y ajouter une finalité pédagogique. La pratique des mitzvot doit continuer pour préserver l'identité juive. Elle ne reprendra son effet absolu, son effet total, que dans la présence physique en Eretz Israël, mais malgré tout, la décision a été prise, c'est une décision de survie. Bien que l'exil soit advenu, bien que le temple soit détruit, Israël a décidé de se survivre à lui-même, mais il s'agit bien de survie, c'est-à-dire que c'est tout un temps provisoire, qui est ce temps de la nuit, ce temps du retour à la nuit, et qu'il s'agit de surmonter pour arriver à la délivrance du matin. Et je vous dis tout de suite une autre phrase qui nous frappe à la lecture de la Gemara, se trouve dans une autre Mishnah, jusque le temps de Kriyat Shemar du matin arrive. Vous vous rappelez de cet autre passage où les Chachamim ont discuté de la sortie d'Égypte pendant tout le temps de la nuit, jusqu'à ce que leurs élèves soient venus leur dire que le temps de dire la lecture du Shemar du matin était déjà arrivé. Et je crois que sans même approfondir le thème en lui-même, ça doit nous apparaître comme très clair. Hein? Alors que l'on continue encore à discuter comment commémorer l'événement ancien de la délivrance, voilà que déjà le temps de la délivrance nouvelle est arrivé. Et c'est pas un chidouche que je vous dis là. Hein? C'est très certainement l'intention des élèves de Bnei Brak, hein? Puisque ça se passait à Bnei Brak. Et pour revenir donc à notre problème, il est bien évident qu'on a pris au sérieux la relation de signification spirituelle de l'événement de commémoration. Alors je reviens à Rabbi Elazar ben Azaria. La tradition nous raconte que lorsque Rabban Gamliel a dû quitter sa place de chef du Sanhédrin, la courtoisie de la politesse talmudique fait qu'on ne l'a pas remplacé par un collègue qui serait du même niveau, si vous voulez, de la même force, ça voudrait dire qu'on le remplace. Alors on a demandé au plus jeune étudiant de la yeshiva, c'était pas le jour de Pourim, mais enfin on a demandé au plus jeune étudiant du Sanhedrin de prendre sa place, et c'était Rabbi Elazar ben Azaria. La tradition raconte qu'il avait 18 ans, et lorsqu'il dit « voici, je suis comme si j'avais 70 ans », c'est tout simplement parce que c'est l'âge de Zikna, c'est l'âge de la sagesse, 70 ans, hein, et que c'est, si vous voulez, l'âge du Zaken qui est à la tête du Sanhedrin, et il veut dire « je suis comme si », mais avec un petit sourire complice, « je suis comme si j'étais Rosh Yeshiva », en réalité, il était le dernier de patrouille. Mais, et voilà, on m'a donné donc cette prérogative de prendre les décisions concernant la liturgie du soir, et voilà, l'Ozachiti, je n'arrive pas, moi-même, à donner la preuve de cela. que, quoi qu'il en soit, il faut mentionner l'événement de la sortie d'Égypte aussi pendant la nuit. Voilà la première idée générale que je voulais mettre en évidence. C'est d'autant plus frappant concernant le sujet général qui était discuté au temps de la marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Donc le jour où, qu'on appelle dans le Talmud Bovayom, ce jour-là. Ce jour-là, on a pu prendre toutes les décisions qui étaient en suspens, on a pu les décider parce que Rabban Gamliel, tant que Rabban Gamliel était à la tête du Sanhédrin, on ne pouvait pas décider, mais on a demandé à Rabban Gamliel, si vous voulez, de laisser sa place pendant quelque temps aux plus jeunes de la yeshiva pour pouvoir prendre ses décisions. Une fois qu'elles ont été prises, Rabban Gamliel a repris sa place d'ailleurs, comme nous le dit la Gemara. Et pour ne pas faire de la peine à Rabbi Elazar ben Azaria, alors on lui a demandé, une fois tous les 15 jours, le Shabbat, de faire la drassa. Alors, grosso modo, comment ça s'est passé? Vous voyez, il a existé une politesse talmudique qui savait y faire. Bien, revenons au problème. Nous savons que la tradition attribue, relie, chacune des trois prières aux trois patriarches. La prière du matin, celle de Shachrit, est reliée à Abraham, à l'identité d'Abraham et à son histoire, et à sa midda, à sa manière d'être Israël. La prière de Mincha est reliée à Yitzhak, et la prière de Arbit est reliée à Yaakov. Il y a d'ailleurs un remez, une allusion qui est donnée par le fait que la deuxième lettre de chacun des noms des patriarches renvoie à chacun des trois moments de la journée. Nous allons voir ça très, très rapidement. Abraham, la deuxième lettre, c'est Bet, et ça renvoie à Boker, le matin. Yitzhak, c'est Tzadé, ça renvoie à Tzahoraïm, qui est l'après-midi. Et Yaakov, c'est Aïm, ça renvoie à Erev, c'est donc la prière de Aaron. C'est joli, ça. Eh bien, le principe de l'invocation à la prière est que le matin, nous prions le Dieu d'Israël en dominante, en tant qu'il est Dieu d'Abraham. C'est-à-dire, tout se passe comme si le matin, nous sommes dans la situation d'Abraham. Abraham est le patriarche du matin dans toute son histoire. Toute son histoire se place au niveau du matin. Je vous cite simplement un verset en passant. « Vayashkem Abraham baboker ». C'est le matin que Abraham a réalisé sa propre vertu. Tout se passe comme si le matin, nous prions comme si nous étions Abraham. Nous nous adressons au Dieu d'Abraham en dominante. Bien entendu, nous nous adressons au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est clair. Pas? Mais malgré tout, dans la dominance de la relation avec Abraham. À midi, de la relation avec Yitzhak, et d'autre part, la nuit, le soir, de la relation avec Yaakov. Et d'autre part, on a aussi établi une correspondance, comme vous le savez, entre les trois exils et les trois patriarches. Effectivement, l'exil de Mitzrayim est relié à l'histoire d'Abraham, l'exil de Babel est relié à l'histoire d'Isaac, et l'exil de Edom, l'exil qui est en train de prendre fin sous nos yeux de notre temps, est relié à l'histoire de Jacob. Et la question qui est posée est la suivante. On prie toujours au Dieu du Père. On prie toujours à Dieu en tant qu'il s'est révélé à l'étape précédente. Tant qu'un homme est encore vivant, il ne peut pas dire que Dieu est le Dieu de lui. Il est le Dieu de ses pères. Il est le Dieu révélé et habilité par le tzaddik de la génération précédente. C'est une grande règle de la liturgie de la prière. Au niveau de la vie des patriarches, Isaac prie le Dieu d'Abraham, il ne prie pas le Dieu d'Isaac. Jacob prie le Dieu d'Isaac et d'Abraham, il ne prie pas le Dieu de Jacob. Est-ce que vous comprenez bien ce principe? Il y a une Gemara dans Psachim qui nous indique ce problème. La Gemara raconte qu'un jour David a posé à Dieu la question suivante. Il a dit, on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, pourquoi ne dit-on pas Dieu de David? Alors Dieu lui a répondu avec un verset des psaumes en lui disant, je les ai éprouvés et ils ont surmonté l'épreuve. Est-ce que tu veux que je t'éprouve? Alors David a dit oui, éprouve-moi, mais voilà, il n'a pas surmonté l'épreuve. C'est par là que la Gemara nous fait comprendre l'invocation Dieu de qui? Hein? On ne dit pas encore Dieu de David. Alors qu'on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je pense que vous comprenez bien ce problème. Par conséquent, la question s'est posée à une certaine période. Si nous sommes encore, ou si nous sommes, si vous voulez, occupés à l'expérience de Jacob, est-ce que Tfilat Arbit reshut uchova? Si nous sommes, en tant qu'Israël, dans l'histoire de Jacob, si nous sommes encore occupés à tenter de faire réussir cette koufa, cette étape de l'histoire d'Israël qui est l'histoire de Jacob, alors Shachit, c'est Abraham, on peut faire. Israq, c'est Mincha, c'est Israq. Mais Arbit, ce serait encore notre propre identité qui serait en question. Et par conséquent, la question donc s'est posée. Est-ce que la tfila de Arbit a un fondement tant que notre histoire, en tant que Jacob, continue à durer? Et quelles sont, si vous voulez, les positions dans cette marloquette, les positions dans cette controverse? Certains pensent que quoi qu'il en soit, le fait que Jacob soit Israël, c'est irréversible. Par conséquent, on doit faire la prière de Arbit. D'autres pensent que nous ne sommes pas encore arrivés à cette madriga où Jacob, ayant réussi son histoire, ayant mérité le nom d'Israël, on peut faire la prière de Arbit. Et c'est pourquoi on va donner la possibilité de décider chacun suivant son envergure. Ça, c'est la thèse de celui qui dit « Tfilat Arbit reshut ». Mais pour ceux qui ont pensé que, quoi qu'il en soit, bien que nous soyons de nouveau en exil, malgré tout, l'étape de Jacob devenu Israël est irréversible, alors, et c'est la décision qui a été prise, « Tfilat Arbit chova ». Est-ce que c'est bien clair? Vous voyez, quel est le problème qui est en jeu? On est déjà là, et il y a très longtemps que cette discussion a eu lieu, il y a près de 2000 ans. On est là, entré dans une période historique où toute la question de la liturgie du soir est en jeu, et il s'agit de savoir si la communauté va s'engager dans son identité comme si elle était déjà certaine de la fin de son exil et surtout de sa réussite. Et on comprend pourquoi il y a pu y avoir hésitation et scrupules lorsqu'on est entré dans une période de ce genre. Et vous voyez comment les choses sont reliées presque en faisceau, et par rapport à la référence à la sortie d'Égypte, et par rapport à ce long exil qui commence à la destruction du deuxième temple, et où Israël risque d'avoir un doute quant à sa propre identité. C'est la Mida de Yaakov qui est en jeu dans ce troisième exil. A-t-on le droit ou n'a-t-on pas le droit de faire comme si cette Mida est déjà réussie? Et la réponse de la Torah Sheba'al Peh, c'est que non seulement on a le droit, mais on a le devoir. Seulement voilà, on n'arrive pas à trouver l'argumentation pour le fonder. Vous voyez quel est le problème qui se pose à ce niveau de la Mishnah. Et nous revenons donc au point précis de la mention de la sortie d'Égypte. Alors je relis la phrase de Rabbi Elazar ben Azaria. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Elazar ben Azaria a dit « Hare ani kevel shivim shana » Me voici à la tête du Sanhedrin, comme si j'étais âgé de 70 ans, et je n'ai pas réussi à fonder cette décision que nous voulons prendre de faire mentionner la sortie d'Égypte, même et aussi dans le temps liturgique de la nuit. C'est-à-dire, bien que revenu dans l'exil, que nous ayons à considérer la référence de la sortie d'Égypte comme étant un acquis irréversible. Est-ce que c'est bien clair comme problème ? Rabbi Elazar, je pense que c'est la Mishnah qui ajoute ça, mais enfin, lisons-le comme si c'était Rabbi Elazar qui continue à parler. Hatshed Racha Benzoma, jusqu'à ce que Benzoma a donné l'explication suivante concernant le verset qui avait institué la Mishnah, qui consiste à mentionner la sortie d'Égypte chaque jour. Hatshed Racha Benzoma, et voici le verset, le Ma'an Tisko, afin que tu mentionnes, et Tiom Tsetecha Meret Misraim, le jour de ta sortie du pays de l'Égypte, Kol Yemei Hayecha, afin que cette mention tu la fasses tous les jours de ta vie. Et Rabbi Benzoma, pardon, a mis en évidence le fait suivant. Le verset dit Kol Yemei Hayecha, tous les jours de ta vie. Or, du point de vue du compte des jours, l'expression Yemei Hayecha aurait pu suffire. Parce que tous les jours de ta vie et les jours de ta vie, ça